Ce matin, nous allons poursuivre notre série de prédications sur la mission de l'Église. Dieu qui est parfait, Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui est amour, Dieu qui est sage, a appelé des hommes et des femmes de toutes nations et de toutes cultures à former un peuple. Et pas n'importe quel peuple, son peuple. Un peuple qui lui appartient, un peuple composé de pécheurs, mais qui ont été rachetés, qui ont été arrachés à la mort par Jésus-Christ. Le peuple de Dieu est également appelé le corps de Christ ou l'Église. Et ce peuple, le peuple de Dieu, n'est composé que de personnes volontaires. Tous ceux qui appartiennent à Dieu ont librement accepté deux choses, au moins deux. Que Dieu donne sa vie pour eux, ils ont reconnu en Jésus leur sauveur, celui qui a sauvé leur vie de la mort éternelle. Et ils ont aussi accepté de vivre pour Jésus. Ils ont accepté que Jésus vive en eux. En Jésus, ils ont reconnu le Seigneur de leur vie. Et si Jésus est réellement le Seigneur de notre vie, si notre communauté est réellement l'Église, le peuple de Dieu, alors quoi de plus normal, quoi de plus formidable pour nous que de chercher à accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Nous avons tout à l'heure chanté que nous voulions faire plaisir à Dieu. Bien, faire plaisir à Dieu, c'est aller dans le sens de ce que Dieu attend de nous, de ce qui réjouit Dieu, de ce qui l'honore. Nous avons déjà vu que ce que Dieu attendait de nous, en tout premier lieu, c'était que nous le glorifions. Voilà. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Dans l'Église, rien ne doit s'opposer à la gloire de Dieu. Dans l'Église, dans nos vies, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Et cette recherche et cette manifestation de la gloire de Dieu peut se décliner par le biais de 5 missions. 5 missions différentes mais complémentaires, comme les doigts de la main. Parmi ces 5 missions, nous avons déjà vu l'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dieu est glorifié lorsque nous l'adorons, c'est-à-dire lorsqu'il occupe la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Nous avons ensuite vu l'édification. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Notre Dieu est glorifié lorsque nous grandissons à la ressemblance de Jésus. Nous verrons plus tard le service. Dieu nous fait la grâce de rentrer au service de Jésus-Christ. L'évangélisation, nous témoignons de notre espérance en Jésus. Et ce matin, nous allons bien évidemment parler de la communion fraternelle. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première lettre de Jean, au chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. Et je lirai les versets 3 à 7. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, la communion fraternelle, qu'est-ce que c'est, cette communion dont il est question? Alors, le mot grec qui, dans nos Bibles, est traduit par « communion » signifie « partager quelque chose avec quelqu'un ». Avoir quelque chose en commun, être étroitement associé. La communion fraternelle, c'est donc partager la même chose que des frères et sœurs en Christ, c'est avoir quelque chose en commun avec eux, c'est être étroitement associé à eux. Nous pensons parfois qu'être en communion fraternelle revient à ne rien avoir contre un frère ou une sœur. Si j'ai rien contre, alors je suis en communion. Être en communion, ça limiterait alors une sorte de neutralité ou d'indifférence bienveillante, hein, quand même, à une absence de conflit. Nous serions en communion s'il n'y avait rien entre eux et nous. Mais la communion fraternelle, c'est justement l'inverse. C'est avoir quelque chose entre nous, quelque chose en commun avec nos frères et sœurs. Et ce qu'il y a entre nous, c'est Jésus-Christ. Nous confondons également parfois la communion fraternelle avec de l'amitié entre chrétiens. Et nous pensons que développer la communion fraternelle, c'est développer les relations d'amitié dans l'Église. Mais la communion fraternelle est bien plus forte, bien plus exigeante, bien plus stable aussi que l'amitié entre chrétiens. Et cela nous conduit à notre premier point, donc dont le plan est sur vos feuilles. La communion fraternelle n'est pas une amitié naturelle, mais une union spirituelle en Christ. Selon le Larousse, l'amitié est un sentiment d'affection entre deux personnes, une sympathie qu'une personne témoigne à une autre. L'amitié est un élan naturel qui fait que l'on apprécie certaines personnes. Alors j'espère que nous avons de nombreux amis et de nombreux amis dans l'Église. L'amitié est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous permet de partager ensemble de bons moments et même aussi des moments plus difficiles. Vive l'amitié! Mais confondre l'amitié avec la communion fraternelle, c'est passer à côté du formidable plan de Dieu pour nous personnellement et pour notre Église. Parce que l'amitié est centrée sur nous, alors que la communion fraternelle est centrée sur Dieu. Et oui, l'amitié repose sur les propres désirs de nos cœurs. Nous éprouvons de l'amitié pour ceux que notre cœur apprécie, ceux qui nous font du bien, ceux qui nous ressemblent, ceux qui nous amusent, ceux qui partagent les mêmes idées que nous, qui ont la même culture que nous. Mais les autres, que deviennent-ils? Que deviennent ceux qui ne nous font pas du bien? Ceux qui sont trop différents de nous, ceux qui ne nous amusent pas, ceux qui n'ont pas les mêmes idées que nous? Dieu nous demande-t-il de les laisser de côté? Eh bien non, Dieu nous demande d'être en communion avec eux, si ce sont des frères et sœurs en Christ. La communion fraternelle ne repose pas sur notre propre cœur, mais elle se fonde sur le cœur de Dieu. Parce que Dieu a aimé mes frères et sœurs, alors moi aussi je peux être en communion avec tous ceux qui sont en communion avec Dieu. Nous nous rejoignons par Jésus-Christ. La communion est plus que de l'amitié. Et heureusement, parce que l'amitié est parfois bien fragile. Nous-mêmes ou nos amis, nous changeons, hein, c'est la partie de la vie, nous évoluons, nous changeons. Et parfois l'amitié ne résiste pas à ces changements. Nous ne sommes pas parfaits non plus. Et que dire des amitiés qui semblaient solides, qui vont voler en éclats suite à une parole malheureuse? Une simple parole peut faire voler en éclats une amitié qui semblait solide et qui durait parfois depuis des années. Heureusement, la communion fraternelle ne repose pas sur nos amitiés changeantes, mais elle repose sur Jésus qui, lui, ne change jamais. Elle repose sur sa fidélité qui durera toujours. Mais alors la communion, la question reste ouverte, c'est quoi ? Communion, hein, est le mot qui est utilisé non seulement pour décrire la relation que nous devrions avoir entre frères et sœurs, mais c'est aussi le mot qui est utilisé pour décrire la relation que Dieu veut instaurer entre lui et chacun de ses enfants. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous soyons en communion avec le Père et en communion avec le Fils. 1 Jean 3 que nous avons lu. C'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Le plan de Dieu pour nous, c'est également que nous soyons en communion avec lui par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion est le mot utilisé pour décrire la relation que Dieu veut instaurer entre lui et nous. Et ce que Dieu veut, quel type de relation Dieu veut-il avec nous ? Ce que Dieu veut, c'est évidemment une relation étroite avec lui, où rien, absolument rien, ne va venir se dresser entre lui et nous, afin que nous soyons en parfaite harmonie avec lui. La communion décrit une union spirituelle très forte avec Dieu, et la communion décrit également la relation que nous sommes appelés à vivre avec nos frères et sœurs en Christ. Être étroitement liés à eux, être proche d'eux, les aimer, les soutenir, les accepter, les accueillir, les reconnaître pour ce qu'ils sont, des enfants de Dieu à part entière. La communion fraternelle n'est donc pas une amitié naturelle, elle n'est pas le résultat de nos sympathies personnelles. La communion fraternelle est une relation spirituelle dont Jésus est le centre. Vivre la communion fraternelle, c'est rencontrer l'autre non plus directement comme dans l'amitié, mais c'est rencontrer l'autre par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Je vois l'autre à travers Jésus. Jésus est au centre de la communion fraternelle. Jésus est celui par lequel nous passons pour rencontrer nos frères et sœurs. La communion fraternelle est donc la conséquence de notre communion personnelle avec Dieu. Cela nous amène à notre deuxième point. Notre communion fraternelle est le reflet de notre communion personnelle avec Dieu. La communion fraternelle est indissociable de notre communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être en communion avec Dieu si nous ne sommes pas en communion avec nos frères et sœurs en Christ. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui est écrit dans notre passage. Il part d'une condition. Si nous sommes en communion avec lui, et il aboutit à une conclusion, nous sommes en communion les uns avec les autres. Si nous sommes en communion avec Dieu, alors nous sommes en communion avec nos frères et sœurs. Et l'inverse est également vrai. C'est à la relation que nous avons avec nos frères et sœurs en Christ que se mesure la relation que nous avons avec Christ. Jean 13, 35, Jésus disait « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On ne peut pas dissocier notre communion avec Dieu de notre communion avec nos frères et sœurs. Notre communion fraternelle est le reflet de notre communion avec Dieu. Alors parfois, nous nous imaginons que si nous ne sommes pas en communion avec un frère ou une sœur, c'est de la faute de qui ? Ah oui, c'est de la faute de l'autre. il n'est pas assez ceci, ou alors il est trop cela. Mais si seulement il changeait, ah, alors nous pourrions être en communion avec lui. Mais nous nous trompons, nous confondons la communion fraternelle avec l'amitié. Dans l'amitié, je rencontre l'autre directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Cela se passe directement entre l'autre et moi. Et puis, si nous avons des atomes crochus, alors nous serons amis. Dans la communion fraternelle, je ne rencontre pas l'autre directement. Je le rencontre en passant par Jésus. C'est en Christ que se fait la rencontre. Si nous ne sommes pas en communion avec un frère ou une sœur, c'est parce que nous ne regardons pas à Christ, mais que nous regardons à nous-mêmes. Parfois on se dit, je ne suis pas en communion avec un frère, parce que sur tel point de l'enseignement biblique, il se trompe. Nous ne sommes pas d'accord. Enfin, en général, on se dit plutôt, il se trompe, il se trompe, tout simplement. Mais pourtant, Dieu a accepté ce frère, malgré sa théologie qui diffère de la mienne. Puisque nous sommes tous les deux en Christ, alors si je regarde à Christ, je pourrais rejoindre ce frère et être en communion avec lui, malgré nos différences de point de vue. La communion fraternelle n'implique pas que nous soyons d'accord sur tout, elle implique que nous soyons tous les deux en Christ. On peut aussi trouver que la manière dont l'autre vit sa foi n'est pas correcte. Ah, je ne suis pas en communion avec une sœur, parce que sa manière de prier, sa façon de s'habiller ou l'église qu'elle fréquente n'est pas correcte. Il n'a rien à voir avec la mienne, la bonne. Mais pourtant, Dieu a fait de cette sœur son enfant, elle lui appartient tout comme moi, et elle est en Christ. Si au lieu de regarder ce qui me gêne, je regarde à Christ, alors je verrai cette sœur à travers Christ et je pourrai alors être en communion avec elle. Parce que le fondement, le centre de la communion fraternelle est Christ, nous pouvons être en communion avec des frères et sœurs, même si nous avons sur certains points de vue, des opinions différentes, même si notre manière de vivre est différente, même si notre conception de l'Église est différente. Ce qui compte, c'est Jésus. Si je ne suis pas en communion avec des hommes ou des femmes qui pourtant font bien partie du peuple de Dieu, c'est que malheureusement, je ne les vois pas comme Dieu les voit. C'est que je ne les accepte pas comme Dieu les a acceptés. Cela signifie alors que moi-même, je ne suis pas en communion avec Dieu. Je ne vois pas les choses comme Dieu. Je ne pense pas les choses comme Dieu. Si personnellement nous sommes réellement en communion avec Dieu, alors nous serons aussi en communion avec nos frères et sœurs. Notre communion fraternelle est le reflet de notre communion personnelle avec Dieu. Et elle va donc évidemment influencer l'ensemble de notre vie avec Dieu. C'est notre troisième point. La communion fraternelle a des répercussions sur l'ensemble de notre vie avec Dieu. La communion fraternelle est étroitement liée à tous les autres aspects de notre vie avec Dieu. Sans la communion fraternelle, nous ne pouvons pas glorifier Dieu, ni devant les puissances invisibles, ni devant les hommes. Jean 17, 20 et 21, c'est Jésus qui prie pour ses disciples, et il dit « Je prie afin qu'eux aussi soient un. » Et pourquoi ? Donc Jésus donne une raison derrière. Et pourquoi cela ? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Qui croira que nous sommes unis à Jésus si nous ne sommes pas unis entre frères et sœurs ? Quelle est donc la puissance de ce Dieu qui prétend nous unir à lui si nous ne manifestons pas que nous le sommes réellement ? Sans la communion fraternelle, nous ne pourrons pas non plus grandir à la ressemblance de Christ, et nous resterons de petits enfants dans la foi. Ce que nous avions vu il y a quelque temps qui était au mur, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Il nous faut être en communion avec nos frères et sœurs en Christ pour être réceptifs à ce qui nous encourage et à ce qui nous édifie. Comment recevoir d'eux ce que Dieu voudrait nous dire si nous avons dressé un mur entre eux et nous. Et nous ne pourrons pas non plus les aimer si nous laissons ce mur se dresser entre eux et nous. Le véritable amour, tel que Dieu le définit, consiste à avancer vers l'autre, à montrer et manifester de l'amour, même avec des obstacles. C'est également la communion fraternelle qui nous permet d'être accueillis dans l'Église malgré nos défauts. Hein, vous vous souvenez, on avait demandé qui était sans défaut dans l'Église. Il n'y a pas eu beaucoup de mains levées. Hein. Mais nous pouvons alors être acceptés en Christ, au nom de Christ, et vus à travers Christ. Pas parce que nous sommes des gens parfaits, mais parce que nous venons ici au nom de Christ. Et parce que Christ nous a accueillis, alors nous pouvons accueillir les autres. C'est la communion fraternelle qui nous permet également de trouver notre place dans le corps de Christ et de mettre au service des autres les dons que Dieu nous a accordés et que nous avons plaisir à exercer oui, pour le bien de tous. La communion fraternelle nous permet également de bénéficier de l'indulgence et du pardon des autres lorsque nous avons fait des erreurs et que nous avons péché. Ça nous arrive, n'est-ce pas ? Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La communion fraternelle nous permet de trouver un soutien auprès de nos frères et sœurs. Ils sont solidaires de nous. Et nous pouvons compter sur leur amour, compter sur leur aide, compter sur leur prière. Sans communion fraternelle, plus d'unité, plus de liaison, plus de soutien. Et la communion fraternelle nous permet d'avoir l'assurance que Dieu est bien au milieu de nous. C'est pour ça que nous nous réunissons, parce que nous voulons que Dieu soit au milieu de nous. Matthieu 18, versets 19 et 20, Jésus qui parle, il dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela le sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Si nous ne nous accordons pas avec nos frères et sœurs, c'est que Dieu n'est pas au milieu de nous, que Dieu n'est pas entre nous, que Dieu n'est pas au milieu de nous. Non pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas centrés sur Dieu. Nous ne sommes pas en communion avec lui. Parce que notre communion fraternelle est le reflet de notre communion personnelle avec Dieu, c'est l'ensemble de notre vie chrétienne. C'est l'ensemble de notre vie avec Dieu qui va bénéficier, ou au contraire, qui va pâtir de la réalité de notre entente, de notre union, de notre proximité avec nos frères et sœurs. Sans communion fraternelle, pas d'unité, pas de soutien, pas d'accueil, pas de service, pas de grâce, pas de croissance spirituelle, pas de communion avec Dieu. C'est-à-dire, pas de corps de Christ. Briser la communion fraternelle, c'est briser le corps de Christ. L'œuvre de Christ à la croix a été de racheter des pécheurs et d'unir à lui des hommes et des femmes venant d'horizons différents afin de se constituer un peuple qui lui appartienne. Titre 2:14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Je pense que dans notre société, nous avons une mentalité très individualiste. Mais nous oublions parfois que l'œuvre de Dieu n'est pas seulement de sauver des individus, mais l'œuvre de Dieu est de les réunir en un seul peuple. L'apôtre Jean écrit en Jean 11, 52, et il précise que la mort de Jésus a pour finalité de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, réunis en un seul corps. Parce que s'attaquer à la communion fraternelle, c'est s'attaquer à l'œuvre de Christ. Notre communion fraternelle est en danger. C'est notre quatrième point. La communion fraternelle est en danger. Nous devons persévérer dans la recherche de la communion fraternelle. Satan n'est pas en mesure de s'attaquer directement à Dieu. Mais Satan va chercher par tous les moyens à rompre la communion fraternelle, parce que sans communion fraternelle, il n'y a plus de corps de Christ. Briser notre communion fraternelle, c'est briser notre communion avec Dieu, notre union à Christ. Et Satan peut malheureusement compter sur un allié de poids dans son attaque contre la communion fraternelle. Et le meilleur allié de Satan, c'est qui ? Notre chair ? C'est-à-dire ? C'est nous ? C'est nous-mêmes. Satan par lui-même est incapable de briser la communion fraternelle, parce qu'en fait c'est une relation qui unit les uns aux autres, ceux qui ont été sauvés par Jésus, qui les unit en Christ et par Christ. Et Satan n'a pas accès à cela. Satan n'a aucunement le pouvoir de nous arracher à Christ. En Jean 10, 28, Jésus a dit « Mes brebis ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Satan est incapable de briser la communion fraternelle, mais Satan va essayer de faire en sorte que nous-mêmes, nous brisions cette relation qui nous unit à nos frères et sœurs. Et malheureusement, parfois nous lui offrons bien volontiers notre aide, sans en avoir conscience bien sûr. Et nous-mêmes, nous brisons, ou alors nous empêchons la communion fraternelle, sans que Satan n'ait besoin d'intervenir. Alors que ce soit avec l'aide ou sans l'aide de Satan, l'absence, la rupture de la communion fraternelle sont toujours liées à un manque de communion personnelle avec Dieu. Si Dieu n'est pas le Seigneur de tous les aspects de notre vie, notre propre péché risque de nous faire briser la communion fraternelle. Combien de communions fraternelles ont volé en éclats à cause de péchés d'orgueil, de jalousie, de dureté du cœur, de médisance, de recherche d'une gloire personnelle, du refus de pardonner, etc. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de journaux, quand on voit une mission ou une église qui éclate à cause de ça, c'est bien mis en avant. Les gens s'en servent quelque part pour dire « Mais quelle était cette bande d'hypocrites ?» Ces gens qui s'imaginaient ou qui prenaient un Dieu d'amour et qui eux-mêmes n'étaient pas capables de s'entendre. Il n'y a pas que notre péché qui peut s'opposer à la communion fraternelle. Nos propres difficultés et les propres souffrances de notre cœur peuvent nous éloigner également des frères qui sont différents de nous. Ce qui nous insécurise, ce qui nous dérange dans nos certitudes, peur de la différence, peur d'être jugé, légalisme, insécurité personnelle, complexe d'infériorité, etc. Toutes sortes de souffrances qui font qu'on a du mal à pouvoir s'approcher de certains de nos frères et sœurs quand ils sont très différents, très dérangeants pour nous. Notre communion fraternelle est en danger, et ce danger ne vient pas de nos frères et sœurs. Ce danger vient de notre cœur, et plus particulièrement de tous les aspects de notre vie que nous avons encore besoin de soumettre à Dieu, et de tous les aspects de notre vie où nous avons besoin de la guérison de Dieu. Ce sont sur ces points faibles que Satan voudrait s'appuyer. Alors à cause de ces points faibles, nous connaîtrons des échecs ou des découragements dans notre recherche de la communion fraternelle. Mais nous ne devons pas pour autant baisser les bras. Dieu connaît lui aussi nos points faibles Et Dieu veut nous encourager à persévérer. Acte 2, 42. Et c'est le verset qui est affiché actuellement sur le mur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Si nous devons persévérer, c'est justement parce que les choses ne sont pas faciles. On n'a pas besoin de persévérer quand tout va tout seul, quand nous n'avons jamais envie de baisser les bras. Persévérer implique que l'on est conscient des difficultés, qu'on peut être parfois découragé par ces difficultés, mais que malgré tout, nous allons continuer. Nous devons persévérer parce que la communion fraternelle correspond à la volonté de Dieu, mais nous devons également persévérer parce que cela en vaut vraiment la peine. Vivre en communion avec les uns les autres, quoi de plus formidable. Puis nous devons aussi persévérer parce qu'au moyen des obstacles qui semblent nous empêcher de vivre en communion les uns avec les autres, avec nos frères et sœurs, Dieu veut nous faire grandir en lui. Dieu veut nous guérir, Dieu veut manifester sa gloire par cela. La communion fraternelle est la volonté de Dieu et est l'œuvre de Christ. C'est parce que Jésus nous a sauvés, parce que c'est lui qui a fait de nous un seul peuple, un peuple uni à lui, que nous pouvons vivre la communion fraternelle. Alors nous ne pouvons forcer personne à être en communion avec nous. Mais nous-mêmes, de notre côté, nous devons en tout cas tout faire pour être en communion avec chacun de nos frères et sœurs. Notre cinquième point sera également notre conclusion. Recherchons, cultivons, développons la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est possible que si Christ est au centre. Jésus doit être en nous, Jésus doit être au milieu de nous. Sans communion fraternelle avec Christ, il n'est pas possible qu'il y ait de communion fraternelle. C'est des fois, c'est un mot qui est à la mode, des fois on met ça en avant, et on essaie des fois de réunir toutes sortes de gens. Et parmi ces gens, est-ce que tous sont unis à Christ? Heureusement, certains oui, tous. La communion fraternelle implique au départ que nous soyons unis à Christ, nous, mais aussi que ceux que nous appelons nos frères et sœurs soient unis à Christ. Et si nous sommes réellement en communion avec Dieu, alors nous sommes aussi, ou nous devons être, en communion avec tous ceux qui eux-mêmes sont unis et en communion avec lui. Si jamais de notre côté nous ne sommes pas en communion avec un frère ou une sœur, c'est un signal d'alarme. Attention ! C'est que nous ne sommes pas en communion parfaite avec Dieu. Posons-nous sincèrement la question. Y a-t-il un frère ou une sœur avec qui je ne suis pas en communion? Si jamais c'est le cas, cela signifie que je ne parviens pas à accepter, à accueillir comme frère, comme sœur, quelqu'un que Christ lui-même a accueilli. Mon incapacité à vivre ou à accepter la relation fraternelle traduit que j'ai moi-même une difficulté à vivre ma communion avec Dieu. Je ne vois pas les choses comme Dieu, je ne pense pas comme Dieu, je ne réagis pas comme Dieu. Un péché qui gouverne ma vie, qui n'est pas encore soumis à Christ et dont je dois être libéré. Une blessure, une peur, une souffrance dans mon cœur qui a besoin d'être guéri par Jésus. Quoi qu'il en soit, cela signifie que j'ai avant tout besoin de regarder à Christ, de me rapprocher de lui, afin que je puisse ensuite me rapprocher de mon frère ou de ma sœur. Pour vivre la communion fraternelle, je dois de mon côté d'abord faire le choix de m'approcher de Dieu et de m'approcher de mes frères et sœurs. Recherchons, cultivons, développons notre communion avec Dieu. Recherchons, cultivons, développons notre communion fraternelle. Amen. ça vit un moment de recueillement, de réflexion, de prière, que je conclurai moi-même par une prière. Seigneur, je te suis reconnaissant pour tous les frères et sœurs que tu m'as donnés et qui m'ont accueilli comme un frère, malgré tout ce qui ne va pas chez moi, malgré la dureté de mon cœur, malgré mes inconséquences, malgré mes maladresses. Merci Seigneur, parce que c'est avec les yeux de la grâce qu'il me voit et qu'il m'accepte. Merci Seigneur. Merci parce que c'est possible, parce que toi tu m'as accepté, tu m'as accueilli, tu m'as gracié. Et cet esprit, ton esprit, également dans leur cœur. Ce qui me permet de m'approcher d'eux, Seigneur, en étant accueilli, accepté, en étant entouré, aimé. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour que mon propre cœur soit également entièrement rempli de toi, pour que tous ceux que tu as sauvés, tous ceux que tu as acceptés, tous ceux dont tu prends soin, tous ceux sur lesquels tu veilles, moi je puisse également les accepter, en prendre soin, les accueillir, veiller sur eux. Seigneur, si nous avons des difficultés, tu vois, au niveau de l'amitié, des fois nous n'avons pas d'atome crochu, mais Seigneur, que nous puissions te mettre au centre de nos vies. Nous sommes là pour te glorifier, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Ça veut dire que tu dois avoir la première place en toutes choses. Que nous puissions te mettre au centre de nos vies pour que, lorsque nous approchons d'un frère ou d'une sœur, toi, tu sois entre eux et moi. Et que nous puissions ainsi être parfaitement unis. Non pas parce que nous sommes identiques, non pas parce que nous sommes parfaits, ou non pas même parce que nous avons les mêmes idées, mais parce que nous avons le même Seigneur, le même Sauveur. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous unis, et que ton Église, Seigneur, te glorifie à travers le monde, que nous puissions manifester non seulement notre communion fraternelle avec tous ceux de cette Église, mais manifester également que nous sommes ton corps, un corps, avec nos frères et sœurs qui sont également en d'autres lieux, qui connaissent d'autres situations, et qui ont, Seigneur, besoin de nos prières, besoin de notre affection, et que nous puissions témoigner ainsi que tu es le même Dieu qui unit en lui, par lui, tous ceux que tu as sauvés. Amen.